have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia au micro pour vous présenter l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Les États-Unis, le Canada et le Mexique ont signé le nouveau traité de libre-échange nord-américain lors d'une cérémonie officielle ce matin en marge du G20 à Buenos Aires. Les États-Unis et la Chine pourraient également avancer dans les discussions pour résoudre le conflit commercial entre les deux pays. Le libéralisme économique et le libre-échange ont-ils encore de beaux jours devant eux face au discours anti-globaliste qui gagne du terrain et l'Afrique dans tout cela? Donc nous allons parler donc de ces questions avec vous. On a nos invités en ligne, Herman Cohen, ancien diplomate américain et ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Bonsoir Herman Cohen.
Bonsoir.
Nous avons également Leonard Wanchekon, professeur d'économie et de sciences politiques à l'Université américaine de Princeton. Leonard Wanchekon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. À l'ouverture ce matin, le président argentin Mauricio Macri, qui est hôte de la rencontre du G20, a appelé à l'unité et au consensus pour les 10 prochaines années. Vous trouvez ça facile à faire, vu le contexte aujourd'hui, si on peut le dire, de repli sur soi-même? D'abord, ambassadeur Cohen.
Je crois que l'accord qu'ils ont signé, vous savez que président Trump, quand il est venu au pouvoir, il y avait déjà cet accord de libre-échange entre le Mexique, Canada et les États-Unis qui date depuis plus que 20 ans. Mais le président Trump a dit qu'il ne trouvait pas ça très satisfaisant parce qu'il croit qu'il y avait des avantages pour le Canada et le Mexique et pas beaucoup pour les États-Unis. Et il a demandé un nouveau négociation. Par exemple, les produits laitiers. L'Amérique est champion du monde. Il y a des grandes barrières au Canada pour ça. Et il a trouvé qu'un grand nombre de sociétés américaines voulaient transférer leurs usines au Mexique où le coût de travail est beaucoup moins cher. Donc il a demandé une renégociation et maintenant c'est fait. Et il a changé certaines choses sur les marges, mais je crois que l'accord reste plus ou moins le même.
D'accord. Donc, puisque M. Cohen a déjà entamé le débat sur ce nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada, on va y rester, hein, on va revenir sur le G20 après cela. M. Wanchekon, cet accord, le président Trump l'appelle USMCA ce matin, et Justin Trudeau du Canada, lui, a parlé de nouvel ALENA. Est-ce que est-ce qu'on peut parler de politique intérieure dans cette appellation, ou cela veut dire qu'il y a de réelles divergences qui subsistent malgré tout?
Oui, je crois que c'est beaucoup plus la politique intérieure, hein. C'est que en fait l'accord de libre-échange a été positif donc pour la région. Et c'est considéré à tort par Trump comme étant la raison de la récession économique dans les États du Midwest. Donc, s'opposer à ça, pour montrer qu'on est avec eux, on est avec les Américains du Midwest, on se penche sur leurs problèmes. Et donc c'est bonne politique, quoi. Voilà. Donc, je pense pas que.
Et comme tout le monde y gagne, quoi.
Il n'y a pas grand changement entre la nouvelle version et l'ancienne version.
D'accord. Maintenant, pour ce qui est du sommet du G20 à proprement parler, il se déroule dans un contexte de tension commerciale entre les États-Unis et le Mexique, les États-Unis et l'Europe, notamment ce qui concerne les tarifs sur l'aluminium et l'acier pour l'Europe. Que signifie aujourd'hui le G20 dans ce contexte?
Oui, mais ce que ça signifie, c'est que ça, c'est un cadre donc pour une négociation globale en dehors des négociations bilatérales. Donc, ce qu'on espère, c'est que ces problèmes entre l'Europe et les États-Unis, entre le problème du Mexique, vont être débattus en présence de tous les autres interlocuteurs. Et ça va permettre donc d'avoir une approche plus raisonnable, quoi. Bon, on oublie de parler également du Brexit, donc qui est...
Absolument, qui est un des sujets phares, absolument.
Ça, c'est ça. Donc, en tout cas, je pense que plus de cadres de ce genre existent, mieux ça vaut pour le monde, quoi. Parce que au moins, les gens vont avoir un cadre de plus pour pouvoir débattre des questions, aller dans les détails. Et puis bon, peut-être il y a des troisièmes parties qui vont intervenir donc pour aider à régler les dissensions, quoi. Voilà.
Oui, Herman Cohen, on parle de plus en plus de protectionnisme à la Trump. Est-ce que c'est une réalité ou c'est plutôt un discours destiné à une certaine audience ici?
Je crois que c'est un peu tous les deux. Monsieur Trump parle souvent des automobiles qui sont importées. Il dit, je veux qu'on fabrique des automobiles aux États-Unis. Donc, il reproche aux Allemands, aux Français, aux Anglais d'envoyer des automobiles. Mais il a oublié que les grandes sociétés européennes qui fabriquent des voitures sont déjà aux États-Unis. Par exemple, la plus grande usine pour le BMW dans le monde est aux États-Unis.
Donc,
c'est un peu, comme vous dites, il parle aux gens à la base de ces gens politiques. Et c'est moins réaliste, je crois.
D'accord. Oui, on va prendre peut-être un auditeur, Alphonse Mbaki, n'est-ce pas? Alphonse qui est à Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, Abdou.
Alors vous évoquez plusieurs questions sur notre page Facebook, mais ce qui m'intéresse le plus, vous parlez un peu de la Chine dans cette affaire et de la propriété intellectuelle.
Moi, je pense que dans la globalisation, il faut que chaque entité se retrouve. Donc, ce qui unit les États, ce sont des intérêts. Par exemple, la Chine, là, ce qui dénonce Donald Trump, il a raison. Quand la Chine veut une politique de plagiat, il faut que les œuvres, les produits des gens soient respectés. Lorsqu'il y a la propriété intellectuelle, elle doit être respectée, mais la Chine fait le contraire. C'est pourquoi il n'y a pas entente avec Donald Trump. Il y a des investisseurs qui sont là-bas. La Chine impose les transferts de technologie à ses industriels. Moi, je pense que ça, c'est une méthode qui est contre les intérêts des Américains. Donc, la Chine doit rectifier les tirs et puis, pour qu'il y ait équitabilité, pour qu'il y ait équilibre dans les négociations, dans les échanges. Donc, je donne pas tôt, beaucoup plus tort à Donald Trump. Hein. Son pays a besoin d'intérêts, tout comme la Chine. Mais il faut qu'il y ait équilibre dans les termes. Lorsque les termes ne sont pas équitables, donc il y aura toujours égocentrisme. Abdou.
Tout à fait, on a bien compris.
Notre va trouver qu'il n'y avait pas dans les échanges, il n'y avait pas des intérêts des États-Unis. Les deux pays, la Chine, quoi, le Canada et le Mexique, ils tiraient la part des lions. C'est pourquoi ils ont rectifié les choses. Maintenant qu'il y a une discussion, ils ont trouvé un compromis. Je pense que les choses vont aller mieux.
D'accord, merci Alphonse. Merci beaucoup. Alors, Léonard Wanchekon, le cas de la Chine et de la propriété intellectuelle, le président Trump a bien raison, non?
Oui, bon, en fait, il faut dire tout de suite que ce n'est pas quelque chose... Je ne suis pas très, très informé du problème. Donc, je ne sais pas si je suis la personne la plus indiquée donc, pour répondre à ça. Évidemment... La question de propriété intellectuelle en général, c'est une question hyper importante. Il y a, depuis la guerre froide, donc des tentatives de vol du savoir scientifique, etc. La Chine en a été accusée, donc il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés ici aux États-Unis, donc il y a cette tension qui existe. Bon, maintenant, peut-être aussi que dans le cadre de la G20, ça peut être... un cadre où ces questions peuvent être discutées.
Oui, donc, justement, le président Trump et son homologue Xi Jinping vont se rencontrer demain pour éventuellement voir s'il y a possibilité d'avoir un moratoire sur les nouvelles taxes que l'administration Trump pourrait imposer à d'autres produits chinois. Mais en réalité aussi, il y a beaucoup de compagnies américaines qui sont en Chine. Est-ce que quelque part, comme Apple par exemple, Apple est un peu dans le collimateur justement de l'administration Trump?
C'est ça.
Ça, donc, ce n'est pas la faute aux Chinois, si on peut dire.
Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de bluffs dans tout ça. C'est-à-dire, ce qui est clair, aujourd'hui, la Chine est un bon client pour les États-Unis. Hein, donc, les produits américains, les compagnies américaines font beaucoup d'affaires en Chine aujourd'hui. La population, le pouvoir d'achat, en Asie en général. Donc, tout ça, c'est de très, très bonnes choses pour les compagnies américaines. Bon, maintenant, c'est vrai que la Chine a une importance comparative par rapport aux sociétés américaines, donc sur beaucoup de choses, et ils en profitent. Aussi, donc, vraiment, c'est difficile de distinguer l'argument économique de l'argument politique, quoi.
Tout
les motivations
fait.
Politiques de l'argument économique.
Oui,
ce qui est clair, c'est que il y a beaucoup de politique intérieure, quoi.
Donc, beaucoup de politique intérieure.
Oui, moi, je pense que c'est beaucoup plus politique intérieure. Mmh. Parce que les États-Unis et la Chine, chacun a des avantages comparatifs. Dans ce jeu-là, les deux pays gagnent. Et donc, moi, je pense que le reste des détails et de la posture, quoi. Voilà.
D'accord. Monsieur Herman Cohen, des compagnies comme Apple devraient quand même faire l'effort de produire beaucoup plus ici aux États-Unis. Ça éviterait peut-être une partie de ce déficit commercial que dénonce le président Trump.
Oui, je crois que vous avez raison. Apple a reçu le message du président Trump et je crois savoir que Apple cherche maintenant à transférer un certain pourcentage du travail que Apple fait en Chine, il veut transférer ça aux États-Unis. Mais Apple aussi souffre de cette histoire de perte de propriété intellectuelle.
Absolument.
Et ça, c'est très important, plus important pour Apple que le coût de production. Mais aussi, je crois que président Trump doit être un peu plus prudent dans ses méthodes, parce qu'il y a des fermiers américains qui souffrent de cette bataille, surtout les producteurs de soja. Le plus grand marché du monde pour les Américains, c'est la Chine. Et si la Chine transfère leurs achats vers le Brésil, par exemple, ce sera très dur pour les Américains. Et déjà, président Trump a demandé 12 milliards de dollars pour aider les fermiers. C'est pas une très bonne méthode, ça.
Mais vous pensez donc que la rencontre de demain entre Xi Jinping et Donald Trump pourrait aboutir à quelque chose? Parce que les deux pays semblent souffrir un peu d'une manière ou d'une autre, même si on dit que c'est la Chine qui souffre le plus.
Oui, je crois que c'est vrai. C'est un très bon moment de trouver des compromis maintenant.
D'accord. On a Steve Boko, plutôt, depuis la Côte d'Ivoire. Steve.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Oui, vous avez une question pour nos invités ou vous voulez juste contribuer?
Bon, je veux contribuer.
Allez-y.
Ok, je vois que la rencontre de demain sera une rencontre fructueuse, hein, parce que l'un a besoin de l'autre pour son essor. Les deux travaillent en concordance pour voir quoi les plusieurs devises économiques. Je pense que nous souhaiterons plutôt que cette rencontre soit fructueuse pour les deux côtés. Même si l'Amérique, la Chine plutôt souffre un peu, et il doit falloir que le président Trump doit essayer de voir un peu à ce que ça soit favorable des deux côtés. Parce que nous constatons même en Afrique que la Chine prend beaucoup d'ampleur en matière des produits, en matière des téléphones et même des consoles. Beaucoup d'engins viennent de là-bas. Tout ceci accroît les devises économiques, mais il faut regarder à cela pour les pénaliser. Pour que le président Trump les pénalise, il doit falloir qu'il tombe d'accord en vue de pouvoir aider les deux chefs d'État, les deux pays à connaître réellement ou accroître les devises économiques. Sinon, c'est ma contribution.
D'accord. Merci beaucoup, Steve, depuis Abidjan. Alors, M. Wanchekon, le président Trump menace de ne pas signer la déclaration finale si cette déclaration n'inclut pas le langage souhaité par les États-Unis. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Oui, bon, moi, c'est ce que je continue toujours à dire, là. C'est la posture, quoi. C'est-à-dire, c'est destiné exactement de la même façon. Il y a la rhétorique sur l'immigration malgré les faits, il y a la discussion, la rhétorique sur disons le commerce international, c'est la même chose, voilà. Donc moi je ne prête
par exemple l'environnement aussi, ça devait être un sujet phare, mais à cause du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis et puis entre les États-Unis et l'Europe,
exactement, maintenant la réalité va venir s'imposer. Déjà, comme monsieur l'ambassadeur l'a dit, il y a donc beaucoup de fermiers américains qui vont souffrir de tout ça. Il y a GM qui est en train de fermer malgré tout, parce que la compétition internationale est une réalité. Donc, il ne peut pas imposer donc à GM de ne pas fermer, de ne pas renvoyer les gens, etc. Donc, moi, je pense que ça, là, n'est pas... C'est beaucoup plus destiné à la consommation intérieure, quoi. Voilà. Donc, ce qui est clair, c'est que l'ensemble du monde entier, enfin, l'Europe et la Chine en particulier, ils sont en phase, quoi, sur beaucoup de choses. Et j'espère que leur présence va permettre à ce que la tension entre les États-Unis et la Chine se
baisse un peu.
Ouais, voilà, c'est ça.
D'accord. Monsieur Herman Cohen, il y a effectivement ces deux sujets phares qui devaient être également discutés, l'immigration et le réchauffement climatique. On risque d'avoir des divergences également sur cette question, sur ces deux questions.
L'immigration, c'est pas seulement un problème américain. Si vous regardez les discours en Europe ces jours-ci, il y a un grand nombre de gens qui deviennent contre l'immigration, même en France et en Angleterre. C'est un problème culturel. Il y a des gens qui arrivent, qui ne parlent pas votre langue, etc. Aux États-Unis, de plus en plus, on entend l'espagnol dans les rues, etc. Donc, c'est un problème culturel. Et je crois que ce n'est pas seulement président Trump qui parle de ça. Il y a beaucoup de gens. Donc, c'est un sujet important. Et ce qu'il faut faire pour ça, c'est de chercher des raisons de fond pour l'immigration. Et les raisons de fond sont socio-économiques, surtout en Amérique centrale, où les gens crèvent de faim. Il faut faire le développement dans le Honduras, le Guatemala, etc. Et il faut attaquer le problème comme ça, au lieu de dire, donc, nous allons empêcher tout le monde d'arriver chez nous.
Justement, M. Cohen, vous me permettez d'aborder la dernière partie de cette émission. C'est un peu l'Afrique. Le G20, l'année dernière, à Hambourg, c'était pour la première fois engagé à soutenir l'économie africaine dans le but de réduire l'immigration, sans forcément se montrer... Angela Merkel avait promis, en fait, des investissements privés, avait demander à tous les pays riches d'encourager les investisseurs privés à aller en Afrique. Donc ça nous permet de parler un peu de l'Afrique dans le G20. L'Afrique du Sud est le seul pays représenté. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Ah oui, bien sûr. L'Afrique, le problème d'Afrique et l'immigration, c'est un peu le même comme Amérique centrale. Je vois qu'il y a un grand nombre de jeunes hommes qui quittent l'Érythrée, qui vont vers l'Europe, et récemment, ils ont fait un sondage avec chacun de ces jeunes hommes. Ils ont dit, pourquoi vous êtes partis? Ils ont dit, pas de travail.
L'économie, donc, hein?
Il faut faire des choses dans ces pays, comme en Amérique centrale, il faut faire des choses pour encourager le travail, le développement économique. Ça, c'est le problème de fond.
Tout à fait. Alors, M. Wanchekon, ce serait dommage si l'Afrique n'a pas sa place dans les discussions. Je sais que Paul Kagame est là-bas en tant que président de l'Union africaine, de même que le président sud-africain en tant que membre du G20. Mais la question de l'immigration, du développement, sont tout aussi importants.
Oui, c'est vrai. En fait, pour compléter ce que M. Cohen a dit, je pense qu'il y a la question de la formation, c'est-à-dire il y a également après la formation de pointe dans les sciences, dans la technologie, donc pour que en fait les investisseurs étrangers donc qui s'installent en Afrique puissent avoir donc des employeurs qualifiés quoi. Donc mais je pense que l'idée de Angela Merkel donc de privilégier l'investissement par rapport à l'aide étrangère, je pense que c'est très très important parce que il y a beaucoup de jeunes qui vraiment sont relativement qualifiés, sont très qualifiés, cherchent du travail et le seul moyen par lequel ils peuvent s'en sortir, c'est d'immigrer, d'aller aux États-Unis, en Europe, etc. Donc, c'est important que toutes les grandes compagnies donc, ouvrent des succursales en Afrique, fassent des formations à côté pour que les gens puissent s'adapter et qu'ils puissent trouver des emplois. Maintenant, l'autre chose que je vais ajouter également, c'est faciliter les exportations venant des pays africains. Parce que le problème, c'est les tarifs dans les pays également.
Il y a l'AGOA, par exemple.
Oui, l'AGOA existe, mais il faut l'adapter, il faut le développer, donc pour permettre à ce que... Parce qu'il y a beaucoup de produits agricoles en particulier qui sont rejetés à cause des raisons comme quoi la qualité n'y est pas...
Des critères, quoi, qui sont
un peu... Oui. Voilà, c'est ça. Donc, il faut améliorer tout ça. Donc, pour permettre à ce que les exportations africaines augmentent, les investissements en Afrique augmentent, et tout ça, là, supporté par une réforme du système d'éducation qui permet aux jeunes de pouvoir trouver du travail dans ces entreprises-là. C'est vraiment ça qui est la clé, quoi. Et je pense que... la Chine investit énormément, mais bon, au niveau de la formation, il n'y a pas grand-chose.
Ouais, il n'y a pas tellement de transfert de technologie non plus.
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
On unit les gens de là-bas pour venir travailler en Afrique, alors que bon, les gens devraient pouvoir être formés sur place. Voilà.
Monsieur Cohen, les côtes africaines sont beaucoup plus proches des États-Unis que, par exemple, l'Inde ou la Chine, et pourtant les investisseurs américains préfèrent aller dans ces pays-là. Comment est-ce que vous l'expliquez? Il est plus facile, d'exporter des produits en provenance de l'Afrique qui est plus proche géographiquement. Quel est le problème? Vous êtes là, M. Cohen?
Oui, les investisseurs américains sont un peu timides pour l'Afrique. Et la raison pour ça, c'est les difficultés bureaucratiques dans les gouvernements africains. C'est très, très difficile d'établir un commerce ou une usine en Afrique. Par exemple, si vous voulez faire un investissement en Mozambique, ça va vous prendre un an d'avoir le permis de construire ou de faire autre chose. Et ça va vous coûter un minimum de $200,000. Aux États-Unis, mon fils, par exemple, a établi son propre commerce quand il a quitté l'université. Il a payé $50 et dans un jour, il avait
Pour démarrer son business. Ouais.
Le gouvernement africain doit regarder eux-mêmes les procédures pour établir une affaire.
Justement, et on va peut-être terminer avec ça, M. Wanchekon. Tous les pays africains aujourd'hui se battent pour être sur la liste du doing business, c'est-à-dire améliorer un peu l'environnement des affaires pour justement attirer ces investisseurs, puisque c'est plutôt la solution et non l'aide bilatérale.
Oui, c'est ça, vraiment ça. Et puis bon, comme M. Cohen l'a dit, c'est très important d'améliorer l'environnement, mais c'est aussi important de faciliter l'accès au crédit. Parce que la différence entre le cas du fils de M. Cohen et beaucoup de jeunes en Afrique, c'est que lui peut avoir du financement dans les banques, qui cherche des opportunités comme ça. Chez nous, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas évident.
Donc, ce n'est pas évident du tout. Donc, il y a tout ça. Il y a une combinaison de la bureaucratie et de l'accès aux finances qui explique donc, que l'entrepreneuriat local ne se développe pas encore très bien.
Voilà,
et ça,
merci.
C'est un facteur important en dehors des investissements.
Voilà, merci beaucoup Leonard Wanchekon, professeur à Princeton University, également ambassadeur Eman Cohen, d'avoir participé à cette émission. Merci à tous les auditeurs. Excellente écoute en compagnie des programmes de VO Afrique.